Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
10h03, merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à 9h03. À suivre, notre invité c'est le rappeur Oxmo Puccino pour un spectacle immersif en hommage à Proust d'après À la recherche du temps perdu qu'il joue avec cette icône qui est Françoise Fabian. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel.
Autre icône, Nicolas Carro qui en est également une, bonjour.
Bonjour Philippe.
Le monsieur livre d'Europe 1 et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Pas d'icône moi, non.
Si j'allais le dire, j'attendais que vous me saluiez pour dire que vous êtes aussi
bonjour,
une icône.
Bonjour Philippe Vandel.
Jean-Luc, l'icône que vous êtes, s'intéresse tous les jours à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous avez voulu vous intéresser à du grand journalisme, à tous ces reporters qui prennent des risques pour informer le monde.
Ah non, pas du tout Philippe, rien à voir. Ah. Je pense que vous avez de mauvaises informations, j'ai regardé la chaîne YouTube de Jérém Star. Alors certes, on est sur du reportage de terrain, mais je ne suis pas sûr qu'il gagne le prix Albert Londres, disons, dans les 150 prochaines années. Hein. Même si quand on l'écoute présenter le sujet, on a l'impression qu'il revient d'Afghanistan. C'est plus Jérém, c'est Bernard de la Villa Star.
On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un reportage sur la famille Pélissard qui, tout comme Nathalie Gamano, a décidé de vendre son corps sur Internet.
Oui, j'ai collé le générique d'enquête exclusive à la fin pour aller au bout. Alors, c'est la vidéo qui a beaucoup buzzé ce week-end et on se demande pourquoi, car c'était pas du tout racoleur. Jérém Star l'a sobrement intitulé « En immersion dans le X avec la famille Pélissard ». Vu comment Jérém a passé les trois quarts du temps à glousser comme un premier communion, moi j'aurais plutôt appelé « Maman est en haut qui fait du porno ». Parce que, pour vous expliquer, il est parti à la rencontre d'Amandine et Alexandre que les Français ont découvert dans l'émission « Famille nombreuse » et qui se sont reconvertis récemment dans le commerce du X sur Internet.
Là j'enlève tout,
ouais.
Ça on fait le contenu nu et puis après je mettrai la noire là en sky ou...
Oui, c'est étonnant, mais Jérém Star est très surpris de se trouver face à un téton, un cucu ou un zizi dans un reportage qu'il a lui-même appelé « Immersion dans le X hein ». Et il faudrait qu'il consulte ses sujets avant de les tourner quand même pour le bien de tous. Ça nous éviterait cette fausse pudeur.
Ah, mon Dieu, mais ça n'a pas été épilé intégralement.
Bah si, je suis épilé intégralement.
Il y a un ticket de métro. Oh là là, mais je suis extrêmement mal à l'aise. Mais ils sont énormes, ces mamelons, dirait des CD 33 tours.
Je suis très choqué, Philippe. Je sais, vous êtes également un puriste. Tout le monde sait que les CD 33 tours, ça n'existe pas.
C'est soit l'un, soit l'autre.
Oui, c'est ça. Donc, on nous explique la nouvelle activité de ce couple dans leur petit pavillon familial. Et ce qu'ils offrent à leurs abonnés quand ils se filment sur le canapé, juste en dessous des photos de leurs enfants. Oui, ça, c'est le petit cadeau de la maison. Dans le décor, quand tu commandes une vidéo porno, tu peux voir le résultat de ce que tu es en train de regarder accroché au mur.
Dans ce salon, vous faites quoi? Des shootings photos?
Ouais.
Quand les gosses sont à l'école, c'est ça le concept?
Ouais, ou quand ils dorment le soir.
Oui, alors dans ces cas-là, il ne faut pas qu'un des 8 enfants ait une petite insomnie. Parce que s'il vient voir papa et maman, niveau éducation après, c'est difficile de lui dire que c'est pas bien de sucer son pouce. Donc sur ce site, tu peux demander au couple Pélissard du bien hard ou des choses plus surprenantes.
Je voudrais que tu aies des chaussettes courtes blanches après 2 jours de port pour qu'elles soient bien sales. Tu enlèves tes chaussures et tu tortilles tes orteils dans les chaussures. Dans les chaussettes.
Mmh. Ah bah ça c'est dans mes cordes. Hein. Non mais bouger mes orteils dans tes chaussettes sales, je veux bien le commercialiser. En plus, il me manque des trimestres, alors si je peux en rattraper comme ça. Bon évidemment, je ne suis pas là pour juger, hein. Ces gens font ce qu'ils veulent. Mais ce qui dérange un peu, c'est qu'on a vu leur gamin à la télé et qu'on s'inquiète pour eux. Heureusement, on peut compter sur la délicatesse de Jérém Star quand les enfants rentrent manger le midi.
Tu sais que maman a énormément travaillé, hein. En ton absence, maman a énormément travaillé. Elle a créé plein de contenus, c'est dingue.
Là, je fais des placements de produits.
Oui, du placement de produits, mais je te dis pas où. Hein. En tout cas, avec ce genre d'allusion, ils sont bien protégés, les enfants. Parce que même si les contenus de papa et maman sont réservés à des majeurs, la chaîne de Jérém Star, elle est accessible à tous. Donc à tous les copains d'école. Merci et bravo, Jérém. Bon, je vous rassure, hein, les sous-entendus lourdingues, c'est qu'avec les bouts-choux. Car les Pélissard ont aussi un fils de 17 ans, Léo. Et lui, c'est le seul dans la confidence. Donc quand il mange sa quiche Lorraine le midi, les interviews avec papa et maman continuent à sa présence.
Vous prenez de l'avance dans vos contenus?
Maintenant, on a beaucoup de demandes. Il faut fixer les prix, puis il faut faire des contenus, les envoyer, quoi. Il avait l'habit de Jersey l'autre fois.
Est-ce que Léo avait vraiment envie de savoir que son père avait l'habit de Jersey? Je savais même pas que c'était possible. Mais j'imagine qu'avec un petit labello. Enfin, je suis pas là pour faire des tutos. En tout cas, j'ai appris un truc incroyable sur les gens qui leur commandaient du contenu.
Il y a des petits jeunes aussi, hein, de 23, 24 ans, qui disent qu'ils fantasment sur moi. Mmh. T'as des hommes mariés, t'as des gens connus. Voilà, t'as des gens du milieu de la télé aussi.
Si ça se trouve, on connaît des gens, Philippe. Des gens que vous avez reçus. Demandez à chaque fois maintenant que vous faites une interview, juste par curiosité, on compte sur vous. Mmh. Et sinon, pour rester dans la thématique, et comme il y a Nicolas Carro, j'ai aussi appris ce week-end que Michel Houellebecq venait de tourner dans un court-métrage porno. cette fois c'est sûr, c'est vraiment la fin du monde.
Merci, on était tous les trois consternés. Stéphanie, Nicolas et moi.
Je suis soufflé.
Ouais, moi aussi je suis soufflé et il faut que je reprenne mon souffle pour annoncer une première beaucoup, beaucoup plus joyeuse. On va vous voir ce soir.
Ah oui, c'est beaucoup plus léger. Beaucoup
plus léger. 20h20, c'est la première diff quotidienne de votre émission Samedi d'en rire. Ça va être le même principe que l'hebdo du samedi, mais pas le samedi.
Exactement, ça s'appelle la Samedi d'en rire, la quotidienne. Vous voyez la nuance ?
Oui, je vois, j'ai bien compris. On verra quoi ?
On verra des thématiques chaque soir. Par exemple, ça peut être un soir. Ce soir, je crois que c'est les meilleurs duos de Michel Sardou. Il y aura des sketchs, il y aura des petits jeux, il y aura de l'humeur surtout.
Et vous allez faire quoi demain matin ? Vous allez regarder les audiences à 9h ou pas du tout ?
Pas du tout. Parce que moi, le matin, quand je vois les audiences, j'écoute Culture Média.
Et on peut l'entendre évidemment de 16 à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. Un grand, grand merci Jean-Luc Lemoine. Stéphanie Loire,
oui,
votre indispensable ce matin, ce sera quoi ?
Ce matin, je vous propose un tour d'horizon des films nommés dans les catégories musicales pour les Oscars 2023.
Nicolas Caro, c'est la même question. Houellebecq, Proust ?
Un livre avec 200 anecdotes. Je ne vous raconterai pas tout.
Dans un instant, rapport avec la littérature, avec Proust, c'est Oxmo Puccino. On nous parle d'un spectacle hommage à Marcel Proust, justement. Mais d'abord, on l'entend en musique. C'est le titre Soleil du Nord sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Oxmo Puccino avec nous, bonjour.
Bonjour et merci.
Rappeur, mais pas seulement, deux victoires de la musique. Vous avez aussi travaillé avec des gens aussi divers que Mathieu Chédid, Gorillaz, Ibrahim Malou. Vous avez écrit des chansons pour Florent Pagny, Christophe Maé, même Alizé. Votre premier album, Opéra Puccino, il s'appelait. Il est devenu disque d'or, mais 8 ans plus tard. Combien d'albums en tout ?
9.
Vous avez publié votre premier roman, très remarqué, il y a 1 ou 2 ans, Les Réveilleurs de Soleil, et puis un recueil d'après Marcel que j'ai ici avec moi. Je l'ai avec moi parce qu'on va en reparler. Votre actu, Marcel. D'après l'œuvre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, avec une icône du cinéma français, Françoise Fabian, ça se passe au théâtre 13e art. C'est extrêmement complexe. Quand bien même on a le texte, il faut votre savoir pour s'y retrouver. Racontez le principe du spectacle.
Alors, le principe du spectacle, c'est de parcourir l'œuvre de Proust le temps d'un peu plus d'une heure, à travers quelques textes choisis, sélectionnés par une Proustienne. Et tout ça avec Françoise Fabian, bien sûr, et tout ça avec une mise en scène de Jérémy Lipman, onirique, avec des effets de lumière, des rideaux, de la fumée, des rideaux de fil, des rideaux de tissu, et aussi Alexandra Poupin, qui est une danseuse acrobate incroyable.
Alors, il faut dire qui est Jérémy Lipman.
Jérémy Lipman, c'est un metteur en scène.
Mais il est un peu iconoclaste.
Moi, je l'ai rencontré, j'ai rencontré son travail avant lui sur Joey Star à l'Assemblée.
C'était Joey Star qui lisait des textes qui montraient l'éloquence.
Exactement. Ouais. Des textes de Robespierre, Voltaire. Il a fait, je pense, plus de 200 dates. Ensuite, il a fait la mise en scène du dernier concert de Mathieu Chédid. Il a mis en scène Rouge avec Nils Arrestrup. Il est en train de monter un autre spectacle avec Ibrahim et Joey Star. En fait, il est sur 15 projets en même temps. Il est avec Renaud aussi, notamment. Et c'est incroyable parce qu'il est consacré sur tous ses projets.
Voilà, et c'est pour dire qu'on n'est pas dans l'académisme avec ce spectacle. Françoise Fabian dit de lui et de son travail, il n'a pas essayé de reconstituer Proust, il l'a réinventé sur le plan visuel, sur le plan musical et sur le plan de l'art dramatique. On a fait une lecture vivante de Proust, on n'est pas Proust. C'est-à-dire, quelle différence vous faites ?
Quelle différence je fais ? Dans la proposition de Jérémy Lipman, il y a abstraction de la frayeur que peut provoquer le nom de Proust. C'est-à-dire qu'il...
Ah oui, on l'a tous commencé et ça nous est tombé des mains parce qu'on n'arrivait pas à comprendre.
Donc enfin, il a ouvert une porte qui est pour moi une bonne introduction à l'œuvre de Proust et qui la rend beaucoup plus accessible et qui l'humanise aussi.
J'ai pas encore parlé de Françoise Fabian avec qui vous partagez la scène, icône du cinéma français, je l'ai dit, elle était l'inoubliable Maud dans Ma nuit chez Maud, chef-d'œuvre absolu de Romère. Comment est né ce projet ? Il est venu d'elle parce que c'est une grande proustienne, elle dit l'avoir lu 8 fois en entier.
C'est vrai.
Ce qui fait 8 fois 3900 pages. Je laisse les auditeurs faire le calcul. C'est elle qui a eu l'idée du projet ?
C'est Jérémy Lipman. C'est Jérémy Lipman qui est venu me voir un soir où j'étais tellement fatigué qu'il pensait que j'étais totalement indifférent à son propos. Et pourtant, ça m'est resté. Donc, il me parle de Proust. Il me parle d'un spectacle sur la mémoire avec une comédienne qu'il doit trouver, mais qui ne sera pas une comédienne évidente. Et comme j'avais une totale confiance en sa folie abstraite, je l'ai écouté et peu à peu, l'image s'est découverte et j'ai compris la présence de Françoise et les raisons qu'il m'avait données pour donner ce spectacle incroyable, parce que Françoise a une expérience, un certain âge, c'est une proustienne, et donc elle a un rapport au temps qui est différent de moi, par exemple, ou du public.
Vous n'êtes pas un Proustien. Vous l'avez découvert à quel âge? Vous l'aviez déjà lu?
J'ai découvert tard. Ah non, j'ai découvert tard. J'ai découvert tard il y a quelques années. Pourquoi j'ai découvert tard? Parce que je suis dans une lecture assez rapide. J'ai des lectures qui me demandent peu de concentration, mais qui m'enrichissent. Tandis que Proust vous impose un rythme, une lecture, un vocabulaire, des formules qui vous demandent plusieurs relectures pour les déchiffrer. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours ce loisir. Et la manière dont je suis rentré sur Proust, c'est une manière psychologique, voilà, à travers les rapports avec sa mère. C'est comme ça que je suis rentré dans Proust.
Oxmo Puccino avec nous, on parle de Marcel, c'est au théâtre 13e art et c'est en ce moment en direct dans Culture Média. Il est 11h17 et 23 secondes, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie d'Oxmo Puccino, à l'affiche de Marcel, c'est au théâtre du 13e art. C'est un spectacle autour de la recherche du temps perdu avec des textes choisis. Il y a aussi Françoise Fabian sur scène avec vous. Qu'est-ce qui vous touche chez Marcel Proust, Oxmo Puccino? Quel point commun avec un érudit mondain du Faubourg Saint-Germain au début du 20e siècle et vous-même qui avez grandi dans le 19e arrondissement de Paris, quartier populaire s'il en est?
J'évoquerai en premier lieu ce rapport au temps, l'obsession du temps, de l'importance de chaque seconde tout au long de sa vie. Et donc, on ne peut pas parler, on ne peut pas évoquer le temps sans faire référence à la mort, qui est très présente dans l'œuvre de Marcel Proust.
Mais chez vous aussi?
Oui, et chez moi aussi. Donc, je pense qu'on a deux gros points communs, de donner de l'importance à ces deux événements qui définissent l'essentiel, chaque seconde de sa vie, et cette fin inéluctable.
Je suis surpris de vous voir sourire en évoquant la mort.
Ça me fait penser à cette phrase que j'ai écrite dans le livre qui dit que Kim Chapiron m'a dit une fois, c'est « Les gens craignent la mort, mais ils devraient encore plus avoir peur de la vie. » Et cette notion me fait saisir qu'on rate tout à cause de cette frayeur. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on sait que c'est une durée indéterminée qu'on va en profiter plus.
Qui a choisi les textes et surtout comment, de quelle manière?
C'est une Proustienne qui travaille avec Jemri Niman, dont j'ai oublié le prénom et j'espère qu'elle m'excusera.
J'espère que ça termine par In.
Non, c'est pas moi.
C'est pas vous qui les avez choisis. Comment ont-ils été choisis? Je veux dire ce qui m'a surpris. Moi, j'ai lu le texte. Il y a des classiques, évidemment, ça débute par le début. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Il y a la scène de la Madeleine. Il y a le deuil de la grand-mère. Il y a des passages moins connus, moins sacralisés. Par exemple, les cris de Paris. Racontez les cris de Paris.
Les cris de Paris, c'est un des points de son histoire où il est dans cette relation. Avec Albertine, dans une de ses relations amoureuses avec Albertine. Et donc, c'est très drôle parce qu'il y a cette pensée...
Non mais racontez ce qu'il dit. En fait, il observe les gens qui hurlent. On n'est pas dans le salon des Verdurin. C'est le rémouleur qui passe, etc. C'est la poissonnière qui...
Le lendemain du soir où Albertine m'avait dit qu'elle n'irait pas, puis qu'elle irait peut-être chez les Verdurin, je m'éveillais de bonheur. Dehors, des instruments, des airs écrits pour les instruments... varié, orchestré légèrement l'air matinal. Ces scènes de la rue, jamais je n'y ai pris tant de plaisir que depuis qu'Albertine habitait avec moi. C'était « Ah, les bigorneaux, dessous les bigorneaux, qui faisaient se précipiter vers les marchands où vendaient ces affreux petits coquillages, qui, si il n'y avait pas eu Albertine, m'eussent répugné, mais moins que les escargots que j'entendais vendre à la même heure. » Et donc, tout ce dialogue est fait de son arrangement pour que le moment se passe bien avec Albertine, malgré tous ces événements qu'il déteste au plus haut point.
Je crois que c'est la première fois qu'on cite les bigorneaux dans Culture Média et j'aurais jamais pensé que ça vienne au moment où on parle de Marcel Proust, mais ça qui est absolument incroyable, et c'est une œuvre infinie.
C'est ce que dit François, c'est qu'il y a des réponses pour chaque seconde de sa vie. Toutes les émotions qu'on peut traverser dans une vie sont évoqués et précisés.
François, c'est François Fabian. Vous avez également publié en recueil Oxmo Puccino d'après Marcel que j'ai ici, c'est publié chez Lattès, autoportrait à partir du fameux questionnaire de Proust. C'était en même temps que vous prépariez le spectacle ou rien à voir?
Non, c'était avant. C'était avant, c'était un projet...
C'était deux événements indépendants.
Oui.
Vous sont arrivés dessus deux événements proustiens.
Exactement.
Incroyable.
Ça, c'était un projet qui tournait autour de moi depuis une bonne année avec mon éditeur. Et il m'a sauté dessus à la fin de l'année dernière et puis il m'a dit non mais il faut y aller, ça fait deux ans.
Il est baraqué si vous a sauté dessus. Page 129, comment j'aimerais mourir? C'est le titre de la question du questionnaire de Proust. Comme Dalida, j'aimerais mourir sur scène, ou alors comme Proust, mort en écrivant.
Ouais.
Comment vous aimeriez mourir, vous? J'aurais jamais posé cette question si vous-même ne vous l'étiez pas posé.
Bah, cette question, j'avais répondu comment j'aimerais ne pas mourir.
Ah ouais.
Et je pense que c'est une espèce de manière de reculer la date. Mmh. Voilà.
Mais sauf que vous faites un récit, un jour vous vous retrouvez dans une fusillade.
Oui, oui. Bah, j'aimerais pas mourir dans une fusillade.
Ouais. Mais racontez ce qui s'est passé.
Bah, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec des amis, c'était autour de ma vingtaine d'années, j'étais avec des amis en train de discuter en bas, il y avait beaucoup de monde. Et puis tout d'un coup, il y a des policiers qui arrivent. Deux. En fait, c'est pas des policiers, parce qu'ils ont aucun badge. Et tout d'un coup, il y a des armes qui sont brandies, des coups de feu.
Et ça se met à tirer de partout.
Ça se met à tirer de partout. Et moi, d'instinct, je me réfugie au premier étage. Et là, je commence à réfléchir à ma vie, au sens de la vie, au fait que je vais peut-être mourir dans quelques minutes. Et c'est vrai que c'est assez étrange à vivre, mais ça remet au point.
C'était même étrange à lire.
Merci.
Le don de la nature que je voudrais avoir, ça m'a fait marrer. Vous dites, je ne désire aucun autre don. J'ai déjà les miens à gérer. Je me dis, ça va les chevilles, c'est bon? Avec tous ces dons?
Non, mais c'est, j'essaye de prendre en compte ce que tout le monde néglige chez lui, à savoir ses propres ressources, avant d'aller chercher d'autres ailleurs. Et donc, c'est vrai que si vous vous regardez bien dans un miroir, vous êtes quelqu'un d'incroyable, de par votre histoire, de par vos possibilités, et qu'il faut régler les obstacles qui vous empêchent de vous rendre compte de tout ça.
On continue de parler de musique et de littérature avec Oxmo Puccino, avec Nicolas Caro et avec Stéphanie Loire. À tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Oxmo Puccino, il est sur la scène du théâtre 13e art avec cette pièce. Il y a de la musique dans Marcel.
Il y a de la musique.
Elle est composée comment? Par qui?
Elle est composée par Pablo Lanti. Et donc, il y a de l'électro, de la techno, il y a un peu de rap. Forcément, il y a de la musique d'ambiance, il y a du Wagner aussi.
C'est du bon, quoi.
Ouais. Et il y a un peu d'Oxmo Puccino ou pas du tout?
Oh oui, il y en a un peu. Il faut bien parler du temps qui passe.
Stéphanie Loire.
Oui, bonjour, bonjour Oxmo Puccino.
Bonjour.
On va parler de musique avec un tour d'horizon des nommés dans la catégorie musicale des Oscars 2023. Les Oscars 2023, je ne m'attendais pas à ça.
Oh, c'est
ça
fou, ça
Los Angeles, quelle organisation. Ça sera dans la nuit du 12 mars prochain, du 12 au 13. Pourquoi on en parle? Parce que la semaine dernière, la liste des nommés a été dévoilée. Et on va s'intéresser avec vous au versant musical de ce cru 2023.
Tout à fait. Tout d'abord, Oxmo Puccino, est-ce que vous êtes du genre à veiller la nuit pour regarder les Oscars en direct?
Je suis plutôt sur les highlights et les résumés.
Ouais.
Voilà, avec les meilleures vannes.
Blanche.
Oh, oui.
Je suis dans la même team que vous. Parmi les nommés en lice pour la statuette de la meilleure chanson originale, deux immenses stars de la pop. Tout d'abord, Lady Gaga qui interprète le tube Hold My Hand. Pour l'un des blockbusters 2022, c'est Top Gun Maverick. Une efficacité redoutable.
Ça démarre jamais le tempo aussi.
Si,
c'est l'intro ça.
Bah, si vous voulez, on peut passer.
Non, j'aime bien. J'aime bien.
Pas de problème. Vous moquiez de ma prononciation de Maverick?
Non, mais ce que j'ai dit, c'est qu'elle a mis tout l'effort pour faire Hold My Hand.
Ouais,
elle
prend sûr.
Hand avec le H et après Maverick. Comme si elle était au marché.
Allez-y,
de la bourboule.
Moquez-vous, ça ne m'atteint pas. C'est la quatrième nomination de la carrière de Lady Gaga avec ce titre qui illustre les loopings de l'avion de chasse de Tom Cruise dans la suite du film culte Top Gun. Les fidèles des Oscars se souviennent encore de ce moment, même ceux qui regardent juste les résumés. Ce moment de grâce, rappelez-vous, en 2019, où Lady Gaga et Bradley Cooper étaient montés sur scène pour interpréter Shallow, titre phare du film A Star Is Born, qui allait offrir quelques minutes plus tard à Lady Gaga son tout premier Oscar. Rappelez-vous, c'était divin. C'est la chanson que j'essayais de chanter sous la douche le matin, mais c'est un carnage. Mmh. Quand ça monte, ça marche pas. Lady Gaga, elle va tenter de décrocher un deuxième Oscar cette année avec le titre qu'elle a composé pour Top Gun, dont on vient d'entendre un extrait. Et puis l'autre star nommée aux Oscars pour la toute première fois, C'est Rihanna qui, entre-temps, aura fait son grand retour musical lors du Super Bowl. Très attendu, ce sera le 12 février prochain. Son morceau en lice pour la statuette de la meilleure chanson originale, c'est Lift Me Up, une ballade en mémoire du défunt acteur Chadwick Boseman, interprète du super giga héros Marvel Black Panther. Oxmo Puccino, la pop américaine efficace, comme ça, les tubes qui viennent taper dans le cœur, c'est la musique que vous consommez ?
Je la consomme pas, elle me prend, on peut pas y échapper.
Ouais, elle nous embarque.
C'est parfaitement écrit pour vous toucher en plein cœur dans les émotions. Là.
Ben, je vous voyais les yeux fermés avec le casque,
ouais,
là, je me disais ça marche.
On peut pas faire autrement.
Ouais. Bon, la statuette 2023, elle pourrait revenir à Natu Natu, c'est une surprise. Premier morceau issu d'un film indien à décrocher une nomination dans cette catégorie de la bande-son du film. C'est la bande-son du film RRR, donc en anglais, Philippe. Oui, ou RRR. Je ne sais pas comment on le prononce. Titre composé par M.M. Keeravani, qui a déjà fait sensation en remportant la victoire face aux superstars de la musique mondiale lors des Golden Globes et des Critics Choice Awards. Écoutez.
Ça, c'est que l'intro. Après, ça accélère.
Faut du cœur.
Ouais. Faut du cardio, pour danser là-dessus. Un lice pour la statuette de la chanson originale. On retrouve également le titre Applause pour Tail It Like a Woman and This Is Life, chanson du grand favori Everything Everywhere. Oh, c'est une catastrophe.
Oh là. C'est un cours d'anglais.
Ouais, no comment.
Bon, on passera pour la prononciation.
Du côté des nommés pour la meilleure musique de film aux Oscars. Ce que j'aime bien, c'est elle se fait rire toute seule. C'est, nous, on n'a même plus besoin de
terminer. Mais c'est un tunnel, je vois, quand j'écris des longs titres en anglais comme ça, je me dis, mais pourquoi je me fais ça? Bon, allez, parmi les compositeurs en lice pour l'Oscar de la meilleure musique de film, on retrouve Volker Bertelmann, c'est pour À l'ouest de rien. Pardon. À l'ouest, rien de nouveau. Cartel Burwell, The Bunches of Inisherin. Philippe, non mais allez-y, prononcez.
Non.
Sun Lux pour Everything Everywhere All at Once. John Williams pour The Fabelmans. Et Justin Hurwitz pour La grande fresque de Damien Chazelle, Babylone. Alors Justin Hurwitz, il vient de remporter le trophée des Golden Globes et il fait figure de favori. Il pourrait décrocher sa troisième statuette après celle de La La Land avec ce nouveau film Babylone. Écoutez la BO. Justin Hurwitz pourrait succéder à Hans Zimmer, qui était le lauréat 2022 pour Dune.
Mais oui, justement, on en parlait avec Nicolas Carreau. Merci beaucoup Stéphanie. On vous retrouve bientôt dans l'émission, mais évidemment, et sur Europe, aux commandes de l'émission Musique. C'est tous les samedis, c'est tous les dimanches de 16h à 17h. La double dose de Stéphanie Loire, on en est ravis. Dans un instant, on parle de littérature avec Nicolas. Cette fois-ci, ce sera en français. A tout de suite sur Europe 1 avec Oxmo Puccino.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Oxmo Puccino, ce spectacle Marcel, ça fait référence évidemment à Marcel Proust. Vous êtes un grand lecteur ?
Je le deviens.
Vous n'étiez pas au début ?
De Marcel Proust ?
Non, non, grand lecteur en général.
Je suis un grand lecteur, oui. Je lis au moins un livre par mois.
Nicolas Carreau, ça va vous plaire ça, Nicolas Matt. Ce matin, vous avez un livre qui est en fait un sac plein d'anecdotes. C'est quoi cette
histoire ? Exactement, 200 anecdotes littéraires. Ça s'appelle « Petites histoires de grands écrivains » chez Librio, signé Mélanie Davoust, collectionneuse d'histoires incroyables de génie littéraire.
Par exemple ?
Il y a Casse-Plancher. Tenez là, tiens, Marguerite Yourcenar, les mémoires d'Adrien, vous savez. Le 6 mars 80, elle entre à l'Académie française, elle devient immortelle. C'est la première fois que l'Académie accueille une femme en 300 ans d'existence. Dans son discours, Jean d'Ormesson évoque la difficulté pour une femme d'être élue, fait son mea culpa en disant « Nous vous aurions élu aussi, et peut-être plus aisément et plus vite si vous étiez un homme ». C'est effectivement un bouleversement pour l'Académie. Et d'Ormesson résume « À présent, il y aura deux toilettes. Toilettes, messieurs, et toilettes, Marguerite Yourcenar ».
Il a dit ça devant ouais. tout le monde en habit.
Bah, pas,
le
non,
soir
pas
de la grande soirée.
Mais... Ah, pas à dans côté, le discours. À côté.
Quoi d'autre ?
Céline, tiens, Louis Ferdinand, en 1932, il a 38 ans. Il envoie son manuscrit à Gallimard avec ces mots. « Monsieur, je vous remets mon manuscrit du voyage au bout de la nuit. 50 boulots, c'est du pain pour un siècle entier de littérature, dit-il. C'est le prix Goncourt dans un fauteuil pour l'heureux éditeur qui saura retenir cette œuvre sans pareil, ce moment capital de la nature humaine. »
Très, très modeste,
n'est-ce
Céline.
Pas ? N'empêche, Gallimard traîne un peu les pieds. Et en fait, c'est De Noël qui signe Céline et qui obtiendra non pas le Goncourt, mais le Renaudot. Pas mal quand même. C'était la même chose pour Proust d'ailleurs,
exactement.
Qui a été refusé par Gallimard.
Voilà, et Céline ne s'est pas trompée puisqu'on en parle encore un siècle après.
Exactement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, Simenon. Génial ça, je ne connaissais pas. Un chapitre intitulé « La cage de verre de Simenon ». On le sait, c'était un graphomane dingue. Une semaine pour un Maigret, 10 jours pour un roman dur. C'est comme ça qu'on appelle les Simenons non Maigret. Alors un certain Eugène Merle, à l'époque, décide de se servir de cette rapidité d'écriture pour créer un happening pour lancer son journal Paris Matinal. Il propose à Simenon d'écrire un roman en 3 jours et 3 nuits, enfermé dans une cage de verre sur une plateforme du Moulin Rouge à Paris. Tout le monde pourra avoir assisté à la création. En échange, 50 000 francs pour Simenon. L'histoire commence à faire du bruit. Mais Eugène Merle échoue à financer son journal. L'opération est abandonnée. Et donc, Simenon n'ira pas dans la cage de verre. Ça n'empêche pas certains de penser à l'époque, les années suivantes, que Simenon a vraiment écrit un roman en 3 jours. Et d'autres ont même affirmé qu'ils avaient assisté à ce spectacle qui n'a donc jamais existé. Je termine avec Boris Vian, parce qu'on l'adore tous, et un peu plus quand on sait ça. En 46, il oublie de déclarer ses impôts. Il envoie donc une lettre au percepteur, qui est dans les archives, quoi. « Comme je suis foncièrement honnête et comme vous êtes un homme doux et affectueux, je vous prie de m'envoyer une feuille de déclaration car je n'en trouve plus maintenant. Avec une grosse bise, je vous prie d'accepter par avance mes remerciements. » C'est simple, c'est épatant, c'est Vian. Il y a d'autres lettres encore qui grossissent le fichier de police de Boris Vian, dans le même goût, très légère comme ça et très sympathique. Voilà, on apprend aussi notamment que Colette fabriquait ses propres cosmétiques, que Michaud a essuyé beaucoup de refus et que Romain Gary a provoqué Clint Eastwood en duel à cause évidemment de Gene Seberg.
J'adore ce genre de petites histoires. Petite histoire de grands écrivains, c'est publié par Librio, ça vous a tenté ?
Ça me rappelait en fait que je rêverais d'être un grand lecteur. Vraiment.
C'est-à-dire, ouais. C'est facile
de découvrir. Non, il faut du temps pour être un grand lecteur.
Vous n'avez pas le temps ?
J'en ai moins. Ouais, j'en ai moins.
Vous avez du temps, Nicolas Caro ?
Moi, je suis payé pour ça.
C'est le luxe ultime.
Bim. Ouais. On musique maintenant dans Culture Média. À toi, M et Gaëlle Anne Dorsay sur Europe 1 et Oxmo Puccino avec nous pour la dernière ligne droite de l'émission, évidemment.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Oxmo Puccino, je rappelle Marcel d'après l'œuvre de Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Avec Françoise Fabian, vous êtes sur la scène du théâtre 13e art. Mise en scène assez incroyable et funambulesque de Jérémy Lipman. Vous avez souvent transgressé les genres. Votre premier album, Opéra Puccino, il est devenu disque d'or. Dans la foulée, c'est Jacques Doyon, le cinéaste, qui fait appel à vous pour une bande-son de son film Petit Frère. C'est un hasard ou est-ce que ce n'est pas votre manière de travailler, être là où on ne vous attend pas ?
Je m'en suis fait une règle de me surprendre et de rester à la recherche du plaisir et de l'émulation. Voilà, pour moi, c'est souvent le... Les collaborations sont prétexte à marquer une belle rencontre.
Alors tiens, puisque vous en parlez, collaboration, c'était en 2010, l'album L'Arme de Paix. Il y a des collaborations, des featurings, comme vous dites. En l'occurrence, il y avait Gaël Faye, le romancier de Petit Pays, et si Aurel San, dans le titre « Réussir ma life », titre emblématique. Comment est né ce titre ? Je vais vous dire le sens de ma question, c'est que je connaissais ce titre, mais j'ai appris il y a très peu de temps. Vous jouez où je l'ai appris d'ailleurs ? Je l'ai appris en vous lisant. Dans ce livre d'après Marcel, qu'en fait vous étiez en galère, ça faisait 2 jours que vous étiez en studio, et si j'ose dire, rien ne venait. Quoi. Vous étiez sec l'un et l'autre.
Exactement.
Comment c'est venu ?
C'est venu comme ça doit venir, je pense, lorsqu'on est frappé par une fulgurance. C'est-à-dire que lui, il était en pleine tournée, sur la tournée précédente, et donc ça faisait des mois qu'il n'avait pas dormi, enfin, tourbus, ce rythme qu'on connaît, épuisé, et c'est 2-3 jours qu'il m'avait promis. Moi, j'étais en fin d'album, donc j'avais le sac vide, je ne savais plus où aller. Tout ce que je savais, c'est que je le voulais sur mon album, ça faisait 2 ans que je lui avais demandé. Ouais. Et donc, on a passé le premier jour à se reposer, le deuxième jour à traîner, et le dernier jour à se poser des questions. Et donc, moi, je suis là, je l'évite un peu, parce que j'ai toujours pas d'idée, et que lui, il est en train de récupérer, donc je l'évite. Et à un moment, je vais prendre le café, et je l'entends m'appeler quand je l'ai dépassé. Il fait « Ouais, tu sais, Hawks, je me disais, tu vois, on est là, ça fait longtemps, on est pas mal quand même dans nos vies. Je me disais, qu'est-ce que tu disais si on faisait un morceau sur le fait qu'on a réussi nos lives quand même ? Je lui fais, mais mec, ça défonce. Il me fait, non, on fait pas de refrain, on kick à l'ancienne. Et voilà.
On kick à l'ancienne, c'est comme ça. Orelsan, réussir sa life.
Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Y'a des choses qu'il vaut mieux remettre au lendemain, comme le suicide. Oui, oui, je maîtrise la chimie. S'il y a du rap de Yankee, je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées quand y'avait pas de plan. Absent, avant, quand la vie n'avait pas de sens. Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent, quand j'y croyais pas. Boule au vent, tellement gros, je pouvais faire des caméas. J'ai la formule secrète, j'ai des nouveaux et des vieux textes. Des vérités, ils sont des peut-être, mes ex me regrettent. J'ai réussi ma life, j'ai plus genre de truc où tu te sens sale comme après.
Je vais l'interrompre parce que sinon c'est on va faire durer. Puis je veux qu'on vous entende.
Je vais commencer à danser.
Comment ça se passe? Chacun écrit ses textes dans son coin ou tout est écrit à deux? Ou est-ce que c'est validé? Comment ça se passe?
Chacun écrit dans son coin, ouais. Et se fait savoir l'évolution, mm-hmm. Et ce qui fait que l'un et l'autre sont stimulés, comme mm-hmm. une espèce de compétition qui arrive avec, qui finit par un morceau sain et beau.
C'est Orelsan qui a ouvert le titre et vous, Oxmo Puccino, donnez votre version de la réussite.
Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins, trouver des formules pour frimer des choses simples. Positivité recto verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau. Tu sais ce que ça fait de sentir happy après autant de réveils sur le tapis, sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun tapin.
Tout à l'heure, on parlait d'escargot avec Proust. Je m'attendais absolument pas à ça, mais jamais j'aurais pensé avoir dans le texte d'un rappeur aubergine et parmesan. En quoi c'est la réussite?
Parce que c'est un plat simple, un plat toujours délicieux, qui se partage et fait des bons souvenirs. Moi, je pense que le moment du repas, c'est le meilleur moment de la journée.
Vous dites à un moment, mais c'est pas du tout ici, vous dites rapper, c'est être tristement célèbre.
Oui.
Quelle phrase étrange, que voulez-vous dire par là?
Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'un artiste porte le dénominatif rappeur, mmh. Il ne s'agit plus d'artistique, on part sur le social.
Ouais.
Et ça amoindrit le travail et la recherche. Voilà.
C'est vrai que beaucoup
dès qu'un artiste est présenté comme un rappeur, il y a tous les clichés qui arrivent, il faut justifier. C'est un peu redondant.
Par exemple ? La banlieue, on fait de vous le porte-parole de gens que vous n'avez peut-être pas forcément envie de défendre.
C'est misogyne, des choses que j'ai entendues. Mm-hmm. C'est assez courant, récurrent.
Il y a aussi du
je n'en défends même plus.
Au passage, dans ce livre d'Après Marcel, petit tac pour l'industrie musicale, une info qui m'a vraiment sidéré depuis peu. Vous dites qu'on mixe, avant on mixait pour les grosses enceintes, pour avoir un gros son chez soi, mm-hmm. ou pour les sound systems, ou pour les boîtes de nuit. Là, vous dites qu'on mixe maintenant pour les écouteurs de téléphone, parce
tout
que c'est la manière la plus pratiquée pour écouter de la musique.
Aujourd'hui, on écoute la musique aussi, et beaucoup comme ça pour les jeunes, mm-hmm. même si ce n'est pas bon pour les oreilles. J'ai commencé... À l'époque où j'ai débuté, il y avait un mix pour la télé, un mix pour la radio. Ensuite, on a eu des ingénieurs du son pour les concerts. Et pour le dernier album, ou un peu avant, le technicien commence à mettre l'album après avoir mis le son sur des grosses enceintes, le met sur une toute petite enceinte, ouais. presque cassée volontairement, mm-hmm. et fait les derniers réglages. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le son n'est pas bon. Il me fait, ouais, mais ça, c'est pour les enceintes des téléphones. Je fais, ok, d'accord. Il fait, on écoute la musique comme ça aujourd'hui.
Mon Dieu. Prochain projet, vous savez ce que vous allez faire ou pas du tout? J'ai retrouvé une interview de vous d'il y a 5 ans, l'AFP. Ils sont toujours très bien informés. Vous vous souvenez même plus, la tête qui fait, vous savez même plus ce que vous leur avez dit. Ils ont dit, c'est quoi vos projets? Il a dit, écrire un préambule pour un opéra, écrire une pièce de théâtre, écrire deux albums pour des chanteuses et l'apprentissage du trombone. Je voulais savoir déjà où en est l'apprentissage du trombone.
J'ai arrêté l'apprentissage du trombone.
Voilà.
Parce que c'est la musculation. C'est la musculation de la bouche et je ne suis pas aussi rigoureux.
L'album pour les deux chanteuses?
J'en ai fait une moitié.
C'est pas très gentil de ma part. Et le préambule pour un opéra?
Je l'ai fait, je l'ai acté sur scène. J'en profite pour saluer le maître Roland Auzet, voilà. qui m'a invité pour ce projet.
Et la pièce de théâtre que vous vous projetiez d'écrire?
Écrite mais pas sortie.
Waouh! Ah bon? Ça parle de quoi?
Ça parle d'amour. Oui.
Incroyable, me regardez
une
pas comme ça,
de
je suis pour rien moi.
Une histoire de l'amour.
Ça s'appelle Marcel, c'est au théâtre du 13e art, c'est Oxmo Puccino qui est sur scène avec Françoise Fabian. Et puis on trouve en librairie chez Lattès, d'après Marcel, un autoportrait à partir du questionnaire de Proust. Un grand, grand merci, merci d'avoir infiniment. Été avec nous, avec cette énergie. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec... ça peut pas ne pas vous faire plaisir, ne rien évoquer pour vous. Vous savez qui ? Le retour de Charlie et Lulu.
Oh !
Hit Machine, j'étais sûr que j'allais vous cueillir avec ça. Ils seront là dans ce studio, ça revient sur W9. Ils seront dans ce studio. Et puis les comédiens Philippe Lefebvre et Alison Paradis pour une pièce de théâtre, Le Manteau de Janis. À mon avis, il sera question de Janis Joplin. Juste après le flash, encore en duo, Julia Vignali, Mélanie Gomez. Bien fait pour vous, le programme du jour, Mélanie.
Bonjour Philippe. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser notre esprit pour soigner notre corps. Vous savez, on dit... un esprit sain dans un corps sain. Est-ce que c'est la vérité dans notre vie quotidienne? Est-ce que, je ne sais pas, vous êtes peut-être un adepte de la méditation, de l'hypnose? Ça vous parle, Philippe?
Ça me parle tout à fait. C'est l'acronyme ASICS. Vous connaissez la marque de basket?
Non. Enfin, si, je connais la marque de basket, mais quel est le rapport avec...
C'est les lettres de Anima Sane Incorpore Sano.
Oh,
un esprit sain dans un corps sain.
Je ne savais pas.
Oh, dis donc.
Voilà.
Il s'y connaît quand même.
Ouais. Hein, non, on ne va pas parler de chaussures aujourd'hui. Hein, mais en tout cas, on va s'intéresser à cet adage.
On parlera aussi des nouveaux sites de rencontres, les applis, tout ça, avec des notions d'inclusion, de diversité, de mixité. Voilà.
J'adore le camoulox, les deux sujets ensemble.
Une partie de
c'est un bonheur de vous écouter, c'est un bonheur de vous avoir reçu, Oxmo Puccino.
Merci, c'est
à demain dans Culture Média, on sera là à 9h. Salut.